Écoutez RFI, il est 13h à Paris, 11h en temps universel. Et tout de suite, RFI Midi avec vous, Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, nous irons sur tous les continents avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et nos invités pour mieux comprendre aujourd'hui les conséquences de ces droits de douane américains. Comme il l'avait promis, Donald Trump n'a épargné personne, ou presque. Le coup est dur pour les alliés européens. Nous appellerons notre correspondant à Bruxelles dans une demi-heure pour voir comment les 27 s'organisent. En France, par exemple, le président réunit les patrons des entreprises qui seront les plus affectées. On y reviendra dans quelques minutes. Nous irons aussi à Madagascar, dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel, où la culture de la vanille et le secteur textile vont beaucoup souffrir des nouvelles taxes. Et puis on parlera des pays asiatiques, ce sont eux qui sont le plus durement frappés. La Chine en tête bien sûr, mais pas seulement. Pourquoi ? Quelles conséquences avec les États-Unis ? Quelles conséquences aussi au niveau régional ? Analyse avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Ces droits de douane, ils inquiètent partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Les Américains eux-mêmes ne sont pas confiants. Beaucoup redoutent une hausse des prix et des conséquences très lourdes à long terme.
C'est dingue, il va tout gâcher. Il va séparer les pays du monde entier. C'est la chose la plus bête possible.
Reportage de notre correspondant à Atlanta à retrouver dans notre rendez-vous des Amériques à partir de 13h, temps universel. Nous évoquerons également à ce moment-là ce rassemblement massif hier en Haïti, dans la capitale. Les habitants ont crié leur épuisement face à la violence des gangs et leur colère vis-à-vis d'un gouvernement absent qui ne parvient pas à les protéger.
Les habitants de Cris-Roi, Bourdon, Turgeot et Debussy, nous nous battons contre les gangs et les kidnappeurs. Ils ne pourront pas tous nous tuer. Je ne peux pas dormir, ma maison a été incendiée et je vis avec une balle dans le corps.
Notre correspondant était sur place pendant la manifestation dont nous parlerons aussi avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du grand quotidien haïtien Le Nouvelliste. Avant cela, on fera escale en Turquie où des centaines de jeunes manifestants sont toujours derrière les barreaux. Des étudiants, souvent, qui avaient protesté contre l'arrestation de l'opposant Ekrem İmamoğlu. Leurs proches et leurs avocats réclament leur libération immédiate, ils l'ont dit à nos envoyés spéciaux à Istanbul.
Ils ont été arrêtés pour avoir refusé de se disperser à l'issue d'une manifestation non autorisée. Mais d'après la loi, ils ne devraient pas être incarcérés jusqu'à leur procès. Et pour nous, il s'agit d'arrestations illégales. La réalité, c'est que le gouvernement a peur des manifestations et ne veut pas qu'elles continuent. Il veut effrayer les étudiants et leurs parents en leur disant « Ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans la rue, sinon on vous arrêtera ».
Reportage à écouter à 12h25, temps universel. Voilà, vous avez le programme des prochaines heures. Bienvenue. Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, bien sûr, cette gigantesque offensive commerciale de Donald Trump.
Un coup dur pour l'économie mondiale, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une immense difficulté pour l'Europe et une catastrophe pour les États-Unis, pour le Premier ministre français François Bayrou. De son côté, la Chine appelle les États-Unis à lever immédiatement les droits de douane unilatéraux. L'Inde dit examiner attentivement les conséquences de ces mesures.
Le président des États-Unis a donc mis ses menaces à exécution.
Des taxes réciproques massives sur les produits importés d'une très longue liste de pays et qui s'ajoutent aux précédents et font craindre de lourdes conséquences pour l'économie mondiale. 20% sur ceux de l'Union européenne, 39% pour la Chine, 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde. Alors on va essayer de comprendre ces chiffres avec vous, Agnieszka Kumor. Quelle est la méthode de calcul de Donald Trump?
Selon le locataire de la Maison Blanche, ses droits de douane sont réciproques, c'est-à-dire calculés en fonction des taux tarifaires pratiqués par les partenaires commerciaux de Washington. S'ajoutent à cela des balances commerciales existantes et d'autres barrières comme la TVA. Cela semble compliqué. Pas du tout. Le représentant américain au commerce l'a détaillé. Prenez le déficit commercial des États-Unis avec un pays donné. Divisez-le par la quantité totale de biens qui arrivent de ce pays. Réduisez ce pourcentage de moitié, signe de la gentillesse de Donald Trump, et vous obtenez le taux actualisé. Prenons l'exemple de la Chine. En 2024, les États-Unis ont importé pour un total de 438 milliards de dollars de produits chinois. ce qui représente un déficit commercial de 295 milliards de dollars pour Washington, soit un ratio de près de 68%. Divisé par deux, cela donne un taux de 34%, les 34% qui s'ajoutent pour Pékin aux 20% de droits de douane additionnels déjà mis en place par l'administration Trump.
Précision en direct d'Agnieszka Kumor. Alors on l'a dit, l'Europe est particulièrement visée par ces nouveaux droits de douane américains, des mesures d'une extrême gravité pour l'économie européenne selon le MEDEF, le syndicat des patrons français. La France, où le président Emmanuel Macron réunit cet après-midi les représentants des filières touchées par ces mesures tarifaires. Car si le pays n'est pas le plus gros exportateur vers les États-Unis au sein de l'UE, cette annonce pourrait avoir un énorme impact sur certains domaines d'activité, et notamment, Romain Lemaresquier, le secteur agricole.
C'est un secteur déjà mal en point et dont certaines branches ont déjà été très impactées ces derniers mois. Le secteur agricole français, et plus particulièrement celui qui concerne les vins et spiritueux, subit de plein fouet les évolutions géopolitiques, détaille la députée européenne Céline Himard, sachant que c'est l'un de ceux qui génèrent le plus de revenus en matière d'exportation.
Aujourd'hui, on a déjà des secteurs exportateurs qui sont en grande fragilité, notamment sur les vins et spiritueux, dû en fait aux réactions de la Chine, puisque l'Europe a imposé en fait des taxes sur les batteries électriques subventionnées qui viennent de Chine, et en mesure de rétorsion immédiate, la Chine a pris des sanctions extrêmement drastiques sur ces produits-là.
Avec des exportations vers les États-Unis qui représentent 8,7% des produits exportés outre-Atlantique pour un montant de près de 4 milliards d'euros, la hausse des droits de douane pourrait bien être fatale à cette filière. Céline Himard.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient se passer? C'est qu'on a des secteurs qui sont déjà fragilisés par un manque de compétitivité chez nous, trop de normes, une situation instable, et maintenant vont s'ajouter les rétorsions côté États-Unis, donc droits de douane supplémentaires, qui peuvent vraiment être le dernier clou du cercueil de ces secteurs.
Céline Himard, à l'image d'autres députés européens, espèrent que la Commission européenne parviendra à négocier une baisse de ses droits de douane avec Washington. Mais si d'aventure cette solution n'est pas viable, elle plaide pour engager un bras de fer avec les États-Unis et la mise en place de mesures réciproques. Romain Lemaresquier, Strasbourg, RFI.
Et puis toujours à propos de cette offensive commerciale de Donald Trump, la réaction d'Olaf Scholz. Le chancelier allemand appelle l'Europe à montrer ses muscles et n'écarte pas l'idée de taxer les entreprises de la tech américaine.
La Hongrie annonce quitter la Cour pénale internationale.
Le gouvernement va entamer une procédure de retrait, indique le directeur de cabinet du Premier ministre Viktor Orban. Cela s'inscrit dans un contexte de défiance affichée par Budapest à l'égard de cette institution. Et au moment où Benjamin Netanyahou débute une visite dans le pays, lui qui est visé par un mandat d'arrêt de la CPI, arrivé en pleine nuit, le Premier ministre israélien a entamé sa première visite, la première en Europe depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. Après une trêve de 2 mois, les bombardements ont repris le 18 mars. Le ministère de la Santé du Hamas annonce aujourd'hui que depuis cette date, 1163 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne, dont 97 au cours des dernières 24 heures. Parallèlement aux bombardements à Gaza, l'armée américaine continue également l'opération Mur de Fer en Cisjordanie, cet autre territoire palestinien occupé. Opération lancée le 21 janvier dernier, 2 jours après la mise en place du cessez-le-feu. Depuis, Oriane Verdier, les raids israéliens sont incessants dans de nombreuses villes de Cisjordanie, particulièrement dans le nord.
Oui, hier, un homme a succombé à ses blessures par balle après une opération israélienne à Naplouse. Le Croissant Rouge a également signalé 2 blessés graves, l'un de 18 ans, l'autre de 17 ans, dans la ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Jenin et Toul Karem sont particulièrement visés par l'opération où l'armée israélienne a vidé les camps de réfugiés palestiniens, poussant ainsi 40 000 personnes sur les routes. Là, comme ailleurs, raids et destructions continuent, tout comme les attaques de colons. Un exemple, il y a 2 jours, au sud de Naplouse, 300 colons israéliens ont attaqué un village, mettant feu à des fermes, à des véhicules, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. 3 Palestiniens ont été blessés par balle. L'armée israélienne venait d'installer un checkpoint à l'entrée de ce village. Les violences des colons et de l'armée sont souvent coordonnées. Mardi, le ministre israélien des Finances s'est félicité du record en 2024 des démolitions par Israël en Cisjordanie occupée. Il a promis l'annexion en 2025 par Israël des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. L'Assemblée générale des Nations unies a pourtant donné jusqu'à septembre prochain à Israël pour mettre fin à sa présence illégale dans les territoires palestiniens.
Oriane Verdier, merci pour ces précisions.
Israël et la France ont un objectif commun, de ne pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Déclaration du chef de la diplomatie israélienne.
Gideon Sarr a rencontré ce matin son homologue français Jean-Noël Barrot Le ministre des Affaires étrangères qui a parlé hier d'une confrontation militaire avec l'Iran presque inévitable en cas d'échec des négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. L'Iran, auquel un conseil de défense a été consacré hier autour du président français Emmanuel Macron et de plusieurs de ses ministres. Le tout, Nicolas Falaise, dans un contexte très tendu.
Des bombardements, faute d'un accord sur le nucléaire iranien, menace formulée il y a quelques jours par Donald Trump. Dès son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, le président américain a relancé sa politique de pression maximale sur l'Iran, sous forme de sanctions et désormais avec ses menaces de bombardement, même si Washington et Téhéran ont aussi échangé des lettres qui semblent ouvrir la voie à des négociations. Mais ces discussions ne voient pas le jour, alors ce mercredi, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot s'est alarmé d'une possible confrontation militaire, alertant sur ses conséquences déstabilisatrices pour toute la région. « Il faut négocier urgemment et durement », nous confie une source diplomatique française. Urgence, car outre le risque d'escalade militaire, un compte à rebours est enclenché. Ce qui reste de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien arrive à échéance en octobre prochain. Des sanctions onusiennes visant l'Iran doivent être rétablies. Ce dossier inflammable entrera alors dans une nouvelle période d'incertitude.
Nicolas Falaise.
Et puis, ils ont été trop destructeurs. L'Organisation Météorologique Internationale retire donc leur nom.
Barry, Milton, John ou encore Hélène désignaient des ouragans et des cyclones. Ces derniers ont fait des ravages en 2024 dans l'Atlantique ou le Pacifique. Simon Rosé, c'est une règle en hommage à leurs victimes et il faudra donc trouver un nouveau moyen de désigner les futurs événements météo extrêmes qui se produiront à l'avenir.
Les ouragans, les cyclones, les typhons les plus puissants sont dotés d'un prénom humain. C'est la règle mise en place par l'Organisation Météorologique Mondiale qui estime que les alertes données aux populations menacées sont plus efficaces ainsi. Les prénoms sont donnés par ordre alphabétique, ils alternent entre masculin et féminin, ils doivent être courts et faciles à prononcer dans plusieurs langues. Quand la liste parvient à Z et s'achève, on reprend depuis le début. Mais voilà, certaines tempêtes ont été si destructrices qu'il serait malvenu d'utiliser à nouveau leur nom pour désigner un nouvel événement météo extrême. Les prénoms sont donc retirés. C'est le cas cette année de Beryl, Hélène et Milton dans l'Atlantique, John dans le Pacifique, remplacés respectivement par Brianna, Oli, Miguel et Jake. Au-delà du symbole, cette annonce permet également à l'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, de mettre en avant ce qu'elle constate depuis plusieurs années. Ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents, plus puissants. Hélène et Milton avaient causé des dégâts catastrophiques aux États-Unis. John avait ravagé l'ouest du Mexique. Cela se répétera à l'avenir, prévient l'OMM, une conséquence du réchauffement climatique provoqué par l'utilisation par l'homme des combustibles fossiles.
Simon Rosé, pour terminer ce journal, Anne Kantner, c'est à vous.
Merci Victor Missistrano. Nous parlons de l'actualité en France durant cette première demi-heure de RFI Midi.
RFI, la France à midi.
L'actualité en France marquée comme partout dans le monde par cette déflagration pour l'économie, des droits de douane considérablement revus à la hausse par Donald Trump. Il touche presque tous les pays du monde, on en parlait dans le journal. Pour l'Europe, ce sera 20% de droits de douane sur tous les produits qui entrent aux États-Unis à partir de mercredi prochain. Bonjour Julien Clémenceau.
Bonjour Anne.
On va se pencher donc sur le cas de la France. On a déjà une idée de l'impact pour l'économie française ?
Les États-Unis, c'est le quatrième partenaire commercial le plus important de la France et le premier hors du continent européen. Ces droits de douane vont donc forcément avoir un impact conséquent. François Bayrou, le premier ministre français, s'en inquiétait ce matin au micro de l'AFP.
Cette décision est une catastrophe pour le monde de l'économie. C'est une immense difficulté pour l'Europe. L'idée que chaque des grandes régions du monde va se refermer sur elle-même et que la guerre commerciale doit être désormais la règle présente des dangers qui vont, hélas, se réaliser dans le temps.
Alors, quels sont les secteurs qui peuvent être le plus touchés, Julien ?
Le secteur le plus concerné, c'est l'aéronautique. La France exporte, par exemple, beaucoup d'avions Airbus aux États-Unis. C'est tout de même 20% des exportations françaises outre-Atlantique. Mais Airbus pourrait être en partie protégé.
Parce que le groupe européen a des usines sur place, c'est ça ?
Une seule pour l'instant, où sont assemblés des A320, notamment en Alabama, dans le sud des États-Unis. Mais une deuxième usine doit être inaugurée au même endroit cette année.
En revanche, les vignerons français, eux, ne peuvent pas délocaliser leur production.
Ah oui, c'est le deuxième secteur qui risque le plus de souffrir des nouveaux droits de douane américains. D'un côté, les producteurs et exportateurs de vin et de spiritueux sont soulagés, car ils craignaient de se voir imposer des droits de douane non pas de 20, mais de 200%. 20%. Cette menace semble s'éloigner, mais 20%, c'est tout de même un coup dur pour le Bourgogne, le Champagne ou encore le Bordeaux et le Cognac. La filière craint un recul de 800 millions d'euros de ses exportations.
Ce qui représentera environ un tiers de baisse, si ça se confirme. C'est beaucoup, effectivement. Le luxe et les produits pharmaceutiques, en revanche, sont moins inquiets.
Ce sont les deux autres grandes filières qui exportent beaucoup vers les États-Unis. Les produits pharmaceutiques sont exemptés. C'est ce qu'a précisé la Maison-Blanche hier soir. Le secteur du luxe, lui, est bien concerné, mais avec des nuances. Le géant LVMH fabrique une partie de ses produits aux États-Unis, donc pas de droits de douane. Surtout, les marques de luxe devraient directement répercuter ces droits de douane sur les prix de leurs produits. C'est en tout cas ce qu'a indiqué en février le groupe Hermès. Ils peuvent se le permettre plus facilement car leur clientèle est aisée.
Voilà donc pour le panorama des différents secteurs concernés. Dernière précision, les Outre-mer qui ont des droits de douane différents, plus de 35% pour les produits de la Réunion par exemple. Comment ça se fait ?
Oui, ça c'est surprenant. Hein. La Maison-Blanche a décidé de taxer aussi les îles Saint-Pierre et Miquelon à 50%. Alors ça, c'est pour des raisons administratives. Washington a décidé de les traiter comme des territoires distincts du reste de l'Union européenne. Ce sont des territoires isolés qui ont des mesures le plus souvent pour protéger le peu de production locale qui existe. Et c'est ce que veut sanctionner Donald Trump. Ces droits de douane pénalisent donc, par exemple, le rhum ou encore des produits de la mer réunionnais.
Julien Clémenceau, les droits de douane du président américain et leurs conséquences, on va continuer à en parler, entre autres, avec votre invitée Véronique Rigolet. Vous recevez aujourd'hui le député MoDem de la 8e circonscription du Finistère dans l'ouest de la France, Erwan Balanant.
Bonjour Erwan Balanant.
Bonjour.
Député du Finistère, secrétaire général adjoint du mouvement démocrate, merci de nous rejoindre sur RFI. On va parler dans un instant de l'onde de choc de la condamnation de Marine Le Pen qui continue à secouer la vie politique française. Mais pour commencer, bien sûr, c'est le coup de massue qui nous vient des États-Unis, qui retient toute notre attention. Plus de 20% de taxes sur les produits européens. La nuit dernière, Donald Trump a ainsi littéralement déclaré la guerre commerciale au monde entier. Le Premier ministre Bayrou, on vient de l'entendre, déplore une véritable catastrophe, des difficultés immense pour l'Europe. Erwan Balanant, est-ce qu'on est là véritablement à la veille d'un séisme économique majeur ?
Je l'espère pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est une vraie rupture avec une politique qui avait été menée depuis un certain nombre d'années, une politique qui visait à limiter les droits de douane. Parce que quand vous mettez des droits de douane, quand vous rentrez en guerre économique, vous rentrez nécessairement en conflit. Et des conflits, ça peut parfois déraper, ça peut se tendre. On voit déjà que la situation est parfois tendue entre nous, Européens, et les États-Unis d'Amérique. Et ça sera la même chose dans un certain nombre de pays, dans les relations entre les États-Unis d'Amérique et d'autres pays. Et nous, évidemment, économiquement, chez nous, ça aura des impacts. Mais moi, je le crains énormément que ces impacts soient aussi des impacts de conflits, des conflits qui pourraient être un peu plus importants. Et donc, il nous faut trouver des moyens de réagir et peut-être aussi des moyens de faire entendre raison d'une manière ou d'une autre à Donald Trump. Trump ne se rend pas vraiment compte aujourd'hui, je crois, que c'est sur son pays que ses impacts seront énormes. Il va avoir une inflation énorme aux États-Unis d'Amérique, ça va troubler les choses. On est dans un moment difficile et dans un moment qui risque d'être un moment de trouble. Donc il nous faut être vigilants et il nous faut trouver des solutions pour apaiser tout cela.
Est-ce que Trump est dans une posture impérialiste, comme le dit la patronne de l'Europe, Ursula von der Leyen, avec cette offensive, vous l'avez dit, protectionniste, sans équivalent depuis les années 30, même s'il se tire également une balle dans le pied ?
Ce qui m'étonne et ce qui est incompréhensible, c'est que je comprends pas la cohérence de ces choix. Les entreprises américaines, le marché intérieur américain, la vie des Américains va être largement impactée par ces décisions. aussi, et peut-être même plus que nous, parce que nous sommes une grande puissance commerciale, nous avons un certain nombre de marchés, et je pense que peut-être nous serons moins impactés que les Américains. Nous allons être impactés, c'est sûr, mais peut-être moins qu'eux. Donc je ne comprends pas la cohérence. Alors peut-être qu'il est beaucoup plus malin que moi, pauvre député, sûrement même. Mais j'avoue que je comprends pas la cohérence et je n'arrive pas à exactement trouver ce qu'il recherche. Alors, peut-être qu'il recherche dans cette sorte de nouvelle coalition des extrêmes droites internationales, peut-être qu'il recherche le chaos. On sait que c'est du chaos qu'émergent souvent des mouvements extrêmes. Est-ce que c'est son dessein ? Ça serait inquiétant, mais on commence tous à se poser des questions, effectivement.
Alors, avant le chaos qu'on souhaite éviter, quelle réaction maintenant, quelle riposte le président Macron va tenir cet après-midi, une réunion de crise avec le Premier ministre et les représentants des filières impactées, aéronautique, chimie, les vins, les spiritueux, quel soutien l'État peut-il leur apporter ?
Je pense qu'il faudra des soutiens très conjoncturels là sur le moment, parce que vous avez effectivement des filières, je pense aux filières du vin, je pense aux filières des spiritueux, sur lesquelles on sait que ces droits de douane ont tout de suite un impact très fort. Ensuite, il faudra regarder aussi peut-être les mesures plus structurelles pour avoir des mesures de rétorsion, mais qui faut pas non plus sombrer dans la mesure de rétorsion bête et méchante. C'est comme ça que on rentre dans une escalade et on le sait. Moi, tous les conflits, tous les grands conflits sont souvent soit pour des questions territoriales, soit à un moment donné aussi pour des questions de marché et de questions d'influence commerciale. On l'a vu dans d'autres temps. Donc, méfions-nous, soyons vigilants. Mais en tout cas, oui, le président a évidemment raison de tout de suite réagir et en coordination avec les ministres concernés, proposer des plans de sauvegarde peut-être et des plans de très structurels conjoncturels. Mais après, il faudra qu'on se pose des questions plus approfondies sur comment le monde d'après va s'organiser. Parce que là, cette décision, est-ce que l'on rentre pas dans un monde d'après qui est la fin du monde qui avait été construit depuis les années 50, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale?
Il faut éviter à tout prix une escalade. Voilà pourquoi l'Union européenne se dit prête à riposter, et notamment en attaquant les services numériques américains. Mais avant tout, elle préfère négocier. C'est la seule solution pour sortir de cette crise, Erwan Balanon.
Mais la négociation, dans les questions internationales, c'est toujours la solution la meilleure. On sait très bien qu'à partir du moment où on ne négocie plus, c'est-à-dire qu'on est en conflit. Et quand on est en conflit, on sait très bien où ça peut mener. Ça peut mener sur des catastrophes économiques fortes, et ça peut même parfois mener sur des incompréhensions qui peuvent être belliqueuses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il nous faut être dans cette négociation. Il faut que la diplomatie européenne et la diplomatie de chacun des pays du bloc occidentaux, mais aussi des autres blocs, parce que il y aura des impacts sur tous les pays du monde. C'est ça qui est terrible dans ce qu'il fait. C'est une déclaration de guerre commerciale à l'ensemble du monde.
Au monde entier, oui.
Au monde entier, et c'est complètement abasourdissant en fait. C'est un changement de monde. Nous sommes dans un monde d'après à partir d'aujourd'hui, et il va falloir le réorganiser. Et pour ça, il va falloir de la négociation évidemment, mais aussi la prise de conscience que nous devons regagner des parts de souveraineté. Sur la question du numérique, c'est évident. Il va falloir qu'on ait des plans B pour se passer peut-être d'un certain nombre d'outils numériques qui aujourd'hui nous sont essentiellement fournis par les États-Unis. Et donc on voit que tout simplement on a basculé dans autre chose cette nuit avec cette décision de Donald Trump.
Et l'actualité aujourd'hui, c'est également la crainte d'une possible trumpisation, là encore, trumpisation de la vie politique française, avec l'offensive anti-juge déclenchée par le Rassemblement national après la condamnation de Marine Le Pen. Xavier Bertrand, le patron des Hauts-de-France, dit redouter un mauvais remake du Capitole, alors que le RN appelle à une manifestation dimanche. Est-ce qu'il va trop loin, selon vous, Erwan Balanon, ou est-ce que vous partagez ses craintes sur cette manifestation de dimanche ?
J'espère que tout se passera bien. Parce que effectivement, les manifestations, ça peut toujours déraper, on le sait. Mais au-delà de la manifestation de dimanche, ce qui est en train de se passer aussi dans notre pays, et d'ailleurs rien n'est innocent et rien n'est, enfin tout ça est en lien. Hein. On voit qu'il y a une sorte d'international d'extrême droite qui s'organise, qui a décidé d'attaquer frontalement notre modèle qui est un modèle qui repose sur l'état de droit qui s'est construit depuis très longtemps, mais qui s'est consolidé avec la période et la création de l'ONU, la création du droit international. Et dans notre pays, remettre en cause les juges, c'est terrible parce que c'est la remise en cause tout simplement de ce qui a été construit, et j'ai envie de dire depuis, même avant 1789, la question de la séparation des pouvoirs, le fait que nous avons dans notre système une souveraineté nationale des électeurs qui votent pour des représentants, députés, sénateurs, ceux-ci font la loi, les juges l'appliquent, et ensuite le condamné ou la personne qui a été victime a une possibilité de faire appel. C'est notre système, il repose sur cette idée très simple que nous avons un état de droit, et aujourd'hui Marine Le Pen, en attaquant frontalement les juges, alors, en attaquant frontalement les juges, elle attaque frontalement notre état de droit, et c'est sans surprise puisqu'il suffit de relire son projet constitutionnel déposé en janvier 2024. C'est rien d'autre qu'une remise en cause de tout ce qui a été construit depuis de nombreuses années.
Merci Erwan Balanan, député MoDem. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Bonne journée.
Erwan Balanan au micro de Véronique Rigolet. Cet entretien sera disponible sur notre site internet rfi.fr et sur l'appli RFI Pure Radio.
RFI, la France à midi.
C'est l'un des grands chantiers du moment en Europe, le développement d'une défense continentale moins dépendante des États-Unis. La Commission a promis le mois dernier 800 milliards d'euros d'investissement dans les prochaines années. Tous les pays sont concernés. La France ne fait pas exception. Au contraire, puisque son président promeut depuis longtemps déjà une défense européenne plus forte et une industrie plus développée. Notre reporter Justine Fontaine a visité une usine d'obus et de canons du groupe franco-allemand KNDS à Bourges, dans le centre de la France.
Ce qui frappe d'abord en arrivant à l'usine, ce sont les travaux d'agrandissement en cours. Là, un hangar provisoire. Ici, un trou de plus de 2 mètres de profondeur sur plus de 100 mètres carrés pour faire place à de nouvelles machines.
Ici, on est dans la dernière canonnerie de France.
Gabriel Massonnier, porte-parole du groupe franco-allemand KNDS, leader européen de l'artillerie. 90% des munitions fabriquées par le groupe en France partent en Ukraine, mais aussi beaucoup de canons César qui sont faits en partie dans cette usine. Ici, l'économie de guerre est déjà d'actualité depuis le début de l'invasion russe.
On a quand même investi 600 millions d'euros en fonds propres depuis 3 ans pour tripler la capacité de production de canons César, pour tripler la capacité de production d'obus de 155 mm qui sont tirés par le canon César. On a recruté, on a acheté des machines, on est en train de pousser les murs. Donc on a cette expérience de l'économie de guerre.
Avant 2022, le groupe fabriquait 1 à 2 canons César par mois. Aujourd'hui, c'est 6 par mois. De longs tubes de métal sur plusieurs mètres de long qui sont usinés ici, pas au millimètre près, mais au micromètre près. Kevin travaille ici depuis 10 ans. Il a vu les effectifs passer de 120 à 200 personnes et la cadence s'accélérer. Nous ne pouvons pas donner son nom de famille pour des raisons de confidentialité.
Ça a doublé au niveau effectif dans la ligne depuis que je suis arrivé. Oui, avec l'augmentation, on a eu des demandes pour venir travailler les samedis sur volontariat aussi.
Sur sa ligne où sont fabriqués les tubes de futurs canons César, les salariés travaillent en 3-8, ce qui n'a pas toujours été le cas. Une dizaine de nouvelles embauches sont prévues cette année. Et l'entreprise, en parallèle, a demandé à ses fournisseurs, plus de 2000, d'accélérer la cadence, témoigne Laurent Monzauge, chef d'établissement KNDS à Bourges.
Tous nos fournisseurs, on les a accompagnés. Il ne s'agissait pas que KNDS soit en capacité de fabriquer 8 canons par mois et que nos fournisseurs restent à une capacité de 3 ou 4.
Dans certains cas, le groupe a avancé de la trésorerie. Il a aussi parfois dû changer de fournisseur. Aujourd'hui, ses carnets de commandes sont pleins pour 3 ans. Et avec la hausse annoncée des dépenses militaires en Europe, il pourrait encore se remplir davantage. Au total, en France, l'industrie de la défense emploie près de 200 000 personnes entre emplois directs et indirects. Justine Fontaine, de retour de Bourges, RFI.
Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans 30 secondes pour une demi-heure consacrée à l'actualité en Europe. À tout de suite. On se retrouve donc dans 30 secondes.
L'exposition Désert, actuellement à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris, invite à un voyage inédit du Sahara à l'Atacama, en passant par l'Antarctique, pour explorer les déserts de la planète et découvrir comment la vie s'adapte dans ces milieux extrêmes. L'exposition Désert à la Grande Galerie de l'Évolution. Plus d'informations sur mnhn.fr. En partenariat avec France Média Monde.